Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct du congrès de l'USH ici à Nantes. En direct sur Radio Territoria pour une émission spéciale en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, la cohésion des territoires. On vous propose une émission dédiée à l'articulation entre la démarche éco-quartier et le renouvellement urbain tel qu'il est porté par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, via le NPNRU, qui est le nouveau programme national de renouvellement urbain. Voilà, je passe sous le contrôle de nos invités. Alors, ces programmes de renouvellement urbain par l'ANRU se situent bien sûr au carrefour des défis de la transition écologique et sociale. On va voir avec nos experts pourquoi ces quartiers prioritaires sont si particulièrement impactés par le dérèglement climatique, comment les dispositifs mis en place dans le cadre de la démarche éco-quartier et du programme national de renouvellement urbain permettent aux élus et aux porteurs de projets de quartiers prioritaires de disposer d'outils opérationnels pour faire face à ces défis. Ils sont nombreux. Comment améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des habitants? Comment favoriser la protection de la biodiversité, la décarbonation, la résilience du quartier face aux effets du changement climatique? On aura également un retour d'expérience sur un quartier en particulier, le quartier Belbeil à Angers, qui s'inscrit dans cette démarche éco-quartier. Avec nous donc ce matin des experts pour débattre de ces sujets. On est ravis d'accueillir Mélanie Lamont. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU. Bienvenue à vous. À vos côtés, un élu, c'est Florian Berco. Bonjour Florian.
Bonjour.
Maire de Laval, président de la Commission nationale éco-quartier et depuis peu président de France Ville et Territoires Durables. Bienvenue Florian Berco.
Merci de l'accueil.
Enfin, Sophie Lebeaupin. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous êtes adjointe au maire d'Angers en charge des quartiers Belbeil et Lac de Maine, conseillère départementale dans le Maine et loi dans le Maine et Loire, pardon, et vice-présidente de la Socoba, qui est un bailleur social.
Socoba, tout à fait.
On a fait le tour. Avec vous, justement, on va voir les apports de cette démarche éco-quartier, justement pour ce quartier de Belbeil, qui sera labellisé étape 2 en 2022. On va tout savoir. On démarre avec vous, Florian Berco, maire de Laval, président de la Commission nationale éco-quartier. La démarche éco-quartier, elle s'est récemment renouvelée. Comment et en quoi elle est particulièrement adaptée aux enjeux de la transition écologique, on disait en introduction, qui concentre finalement tous les projets de renouvellement urbain?
Effectivement, le label éco-quartier, maintenant, c'est connu de tous. C'est le fruit du Grenelle de l'environnement. Et quand on regarde dans le rétroviseur, c'est plus de 500 éco-quartiers qui ont émergé. Maintenant, l'enjeu, c'est l'accélération de cette transition sociale, écologique, qui est nécessaire pour tous. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu renouveler la démarche, la simplifier, l'amplifier, et finalement lui souhaiter le même destin que ce qu'était la bio il y a 30 ans. Un petit label pour quelques agriculteurs un peu fous qui se sont dit que peut-être on pouvait manger mieux et produire différemment et qui aujourd'hui est dans tous nos supermarchés. Donc l'objectif, c'est que ce label éco-quartier devienne un peu la norme.
Oui.
Et aille finalement irriguer la manière de construire l'urbain, de rénover la ville, que ce soit dans la ville ou en campagne d'ailleurs. Et l'attention particulière aux quartiers populaires me semble essentielle, puisque dans un pays, pour bâtir le pacte républicain, et ça a été dit, il faut d'abord partir des plus vulnérables, de ceux qui sont peut-être plus en difficulté. Et malheureusement, dans nos quartiers populaires, c'est là où on concentre les difficultés. Hein, 3 fois plus de pauvres dans les quartiers populaires que dans le reste de la France. Et il me semble que de leur apporter ce droit à la ville, ce droit au beau, ce droit à la réussite, passe aussi par le meilleur de la ville et l'éco-quartier qui pousse les curseurs sociaux, environnementaux et démocratiques dans son aménagement et par principe.
Comment ça se passe à Laval justement sur votre territoire, sur votre commune?
Alors nous à Laval, on est en pleine rénovation du grand quartier Saint-Nicolas. On a 3 quartiers prioritaires, j'aime pas le mot, je parle de 3 quartiers populaires, il y en aurait d'autres d'ailleurs, sur lesquels on travaille à une rénovation en lien avec les habitants et en poussant des curseurs socio-environnementaux. On a dans la nouvelle contractualisation avec l'État et l'ANRU la volonté de développer un éco-quartier dans ce grand Saint-Nicolas. Puis au-delà de la partie rénovation, c'est comment on apporte de l'humain dans ces quartiers.
Oui.
Parce qu'on a souvent l'ANRU du bâtiment, l'ANRU du dur, mais il manque souvent les projets humains. Donc nous, on développe par exemple un projet territoire zéro chômeur longue durée, d'apporter de l'emploi et réinsérer et rendre une fierté dans le quartier par l'emploi. Moi, je crois que l'emploi est source évidemment de réussite, ou encore un projet d'agriculture urbaine qui va permettre de reconnecter la ville avec ce qui fait l'ADN de la Mayenne, le territoire qui nous accueille, en permettant une bonne alimentation, produire sur place et créer de l'activité économique. Ça, c'est autant d'exemples qu'on met en place et qui vont dans cette logique éco-quartier et puis quartier populaire.
Bon, on va y revenir évidemment plus en détail. Mélanie Lamont, vous êtes directrice de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quelques mots quels sont les enjeux particuliers auxquels sont confrontés les projets NPNRU, donc nouveau programme national de renouvellement urbain, notamment en termes de résilience?
Oui. Bon, monsieur le maire, on disait déjà quelques mots, hein, mais c'est vrai qu'il faut bien se dire que les quartiers qui bénéficient d'un programme de renouvellement urbain, du NPNRU, sont 450 quartiers globalement sur 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc des quartiers qui déjà sont ont des critères de pauvreté trois fois plus élevés que dans les autres quartiers. Dans ces quartiers, les quartiers de rénovation urbaine connaissent les dysfonctionnements urbains les plus importants.
Oui.
Par rapport aux enjeux de résilience, c'est-à-dire que ce sont des vulnérabilités qui sont urbaines, environnementales, qui ont le trait à la pollution, à l'environnement, à la santé. Hein. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur la santé dans ces quartiers et aux enjeux, effectivement, d'adaptation au changement climatique. Donc, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi lesquels on retrouve les quartiers en renouvellement urbain, subissent des vulnérabilités particulièrement fortes qui nous ont amené à agir pour pouvoir aider les habitants à résister, avoir une résilience vis-à-vis des crises démographiques, des crises économiques et des crises environnementales. C'est l'idée du programme Quartier Résilient qui a été lancé, annoncé l'année dernière en septembre, à peu près à la même période de l'année par le ministre de la Ville, et qui a permis de donner une impulsion nouvelle à des enjeux qui étaient déjà dans le programme porté par l'ANRU de développement durable. Hein, notre programme, il visait déjà le développement durable, la loi Lamy le prévoyait, mais c'est vrai qu'au lendemain des crises qu'on a connues, la crise sanitaire, la crise climatique, on s'est dit qu'il fallait plus que jamais faire en sorte que les 14 milliards du programme de renouvellement urbain puissent être à la hauteur des enjeux qui allaient venir dans les 30-40 années à venir et qu'il fallait transformer fondamentalement ces quartiers.
Ouais. Donc, on est sur cette trajectoire aujourd'hui, transformation des quartiers, on l'a compris, qui concentre évidemment de la pauvreté, bien sûr souvent
et c'est la double peine, parce que c'est ceux qui contribuent le plus à finalement l'atténuation et à la lutte contre le réchauffement climatique, et ceux qui vont le payer le plus cher aussi. C'est pour ça que l'engagement doit être nécessaire et déterminé.
Avec du coup une démarche pour laquelle l'ANRU a pu consacrer 100 millions d'euros, a pu renouveler des partenariats très forts avec France Ville Durable, notamment avec le CEREMA en lien avec la démarche éco-quartier qui est portée par le ministère, mais aussi avec l'ADEME, les agences de l'eau, pour pouvoir porter ces enjeux de façon partenariale auprès des collectivités qui portent les projets de renouvellement urbain. C'est un enjeu extrêmement important, avec peut-être une particularité dans cette démarche, c'est qu'elle est peut-être plus riche que le NPNRU tel qu'on le portait habituellement, puisqu'on s'appuie sur trois piliers, un pilier urbain et écologique évidemment, mais aussi un pilier économique. Vous faisiez mention de quartier d'agriculture urbaine, c'est notre démarche quartier fertile qui vise aussi à développer l'activité économique et les circuits courts dans les quartiers, et une dimension sociale, parce que vous le disiez, dans ces crises, face à ces vulnérabilités, pilier social et pilier humain et pilier urbain doivent aller ensemble, et c'est qu'on retrouve dans cette démarche.
Alors justement, on va rentrer dans le concret avec vous, Sophie Le Bopin. Vous êtes adjointe au maire à la ville d'Angers, qui porte le projet de renouvellement urbain du quartier Belle Bay et qui est engagé dans cette démarche donc éco-quartier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que la démarche éco-quartier a apporté à la réalisation de ce projet?
Oui, bien sûr. Donc peut-être dans un premier temps, situer le quartier de Belle Bay, c'est un des 10 quartiers de la ville d'Angers. C'est un quartier qui est un peu atypique, 12 000 habitants, 12 000 étudiants et 12 000 personnes qui viennent travailler dans une zone économique. Donc, pour situer. C'est un quartier qui est fait à l'envers des autres quartiers. Vous n'avez pas de cœur de quartier, vous avez un îlot pavillonnaire et vous avez tout autour en fait des logements sociaux ou des logements collectifs. Et puis en rizière, vous avez un ENS, un espace naturel sensible, qui est l'étang Saint-Nicolas et qui recouvre la moitié du quartier. Donc l'objet de l'éco-quartier...
C'est très grand, c'est très étendu.
Non, c'est pas forcément très, très étendu, c'est écarté de la ville parce que vous avez la Maine qui passe, qui coupe quelque part le quartier à la ville. Donc en fait, j'illustrerai par rapport à ça, c'est un quartier atypique et c'est un quartier où c'est compliqué de faire un éco-quartier parce que c'est déjà un quartier qui est habité. C'est déjà un quartier qui vit, c'est pas comme une ZAC, on construit quelque chose qui est nouveau. Et par rapport à ça, nous, on a vraiment un axe sur, je dirais, il y a 5 axes principaux.
Oui.
Le premier, c'est se déplacer. Donc, on a fait l'arrivée du tram. On a eu 6 ans de travaux de tram qui a permis, en fait, de revoir l'ensemble des mobilités du quartier et de travailler sur les mobilités douces.
Oui. Aujourd'hui, c'est opérationnel ?
Aujourd'hui, c'est opérationnel. C'est en phase d'amélioration parce que le tram, il a été mis en pièce service le 7 juillet. Donc on voit comment après, à côté, on travaille toutes ces mobilités. On a travaillé notamment sur un chemin, pour donner un exemple précis, qu'on appelle le chemin du petit bonheur, qui était un chemin qui était utilisé par les piétons, mais sans être marqué vraiment. Et là, en fait, on l'a aménagé de manière paysagère, de manière désimperméabilisée, pour avoir un confort, de l'accessibilité, même pour les personnes handicapées, une mobilité réduite, pour traverser le quartier de long en large, sans avoir autour des voitures, etc. Donc c'est un confort de vie qui change tout.
Ben on sait, puisque la mobilité, effectivement, le déplacement, c'est un des irritants quand on met trop de temps.
Exactement.
Donc là, ça s'est grandement amélioré. Comme il y a 5 axes, on fait assez rapidement pour faire réagir les autres intervenants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Par rapport à ces axes-là, ce qui était important, c'est de voir aussi qu'on est un quartier où il y a 50% de familles monoparentales, beaucoup de femmes avec un problème d'emploi et de mobilité. Justement, on fait aussi l'apprentissage du vélo par certaines associations parce qu'il faut accompagner aussi ce développement de mobilité. Sur le deuxième axe, c'est plutôt la nature en ville, c'est comment on infiltre le parc à l'intérieur du quartier. Quand il a été construit, ce quartier, c'était dans les années 50-60. C'est-à-dire que c'est du bitume partout, des trottoirs, du stationnement. C'est un quartier qui est fait sur du schiste en plus. Donc c'est un peu plus compliqué.
Donc c'était très minéral, très bâti finalement. À l'envers de ce qu'on prône aujourd'hui. L'artificialisation.
L'objectif à la fin de la rénovation urbaine, c'est d'avoir 40 à 50% de désimperméabilisation des sols.
Donc on renature la renaturation.
On renature, on retravaille sur les rues avec désimperméabilisation de tous les stationnements, on met des arbres et on change vraiment les espaces de l'ensemble des rues aussi. Donc il y a un vrai travail aussi sur les espaces publics, les espaces de proximité.
Oui, attendez, on va faire réagir quand même Florent Berco. C'est vrai que c'est important ces deux axes. Bon, il y en a d'autres évidemment, mais mobilité, renaturation, déjà c'est des axes extrêmement forts et on a l'impression que c'est les sujets du moment. On l'a vu et on y est, je pense, de plus en plus sensible. Il suffit de regarder la météo de ces derniers mois, ces dernières semaines.
Tout à fait, il y a un enjeu de désenclaver. Enfin, je pense que c'est un très bon exemple que le quartier de Belleveille à Angers, de désenclaver, à la fois de redécouvrir ce qui était une frontière avec le parc Saint-Nicolas, recréer une couture et finalement en faire un seul et même quartier, parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir un parc de nature. On a la même chose à Laval avec le quartier de Saint-Nicolas qui est lié à une plaine d'aventure, 20 hectares de nature, mais qui ne sont pas utilisés. Finalement, il y a une sorte de frontière naturelle et les gens ne se l'approprient pas. Donc je crois que c'est comment dans ces quartiers populaires on recrée du lien avec le reste de la ville, parce que souvent c'était des enclaves avec un boulevard périphérique, avec des grandes avenues ou alors une frontière naturelle qui n'était jamais franchie. L'objectif, c'est comment on crée des coutures autour de ces quartiers populaires en plus de les rénover par l'intérieur. C'est vrai que là où la puissance publique peut intervenir, c'est sur l'espace public. L'espace public, c'est le lieu du commun, c'est le lieu de la fabrique du vivre ensemble, et 80% d'une ville, ça reste des espaces privés. Heureusement, on a quelques bailleurs sociaux qui sont là et qui nous aident quand même à rénover le parc privé, ou semi-privé ou semi-public. Et les espaces publics doivent être vraiment au cœur de l'action du plan de rénovation urbain, en tout cas on le milite. Et juste pour dire une petite précision, les écoquartiers ne sont pas destinés à des quartiers en extension, bien au contraire, surtout à réparer la ville et refaire la ville. Et c'est pour ça qu'il faut se doter d'outils. Si on pense et on attend que la bonne volonté des élus locaux pour agir, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que moi, une de mes missions à la tête de cette présidence, et sinon je n'aurais pas accepté, c'est de me mettre la boîte à outils en ingénierie et financière pour accompagner les outils dans leur courage de l'action.
On entend beaucoup l'idée de la boîte à outils en ce moment du côté du ministère.
Mais là, c'est du concret et j'en attends encore plus de financement, évidemment. On a l'ingénierie à travers le CEREMA, ça a été dit, par exemple, ou France Territoire et Ville Durable, qui est l'association partenaire. Et puis, financièrement, je sais que le ministère est très engagé, l'ANRU. Et je pense qu'on pourrait aller encore plus loin avec la Banque des Territoires, par exemple, avec des taux bonifiés pour la rénovation dans ces écoquartiers, et pourquoi pas demain de la subvention ou du fonds friche ciblé d'abord dans les quartiers populaires. Ça me semble être essentiel et les propositions que je voulais soumettre au débat.
Mélanie Lamont, vous voulez
rajouter? Oui, je voulais rajouter dans la continuité des deux propos. C'est vrai que l'enjeu, c'est bien de faire de l'écoquartier dans des quartiers qui existent déjà. Et déjà, on a un bon point parce qu'on refait la ville sur la ville. Et s'il y a bien une démarche qui est noble et qui est attentive aux enjeux d'aujourd'hui, c'est de refaire la ville sur la ville. Donc, c'est un élément important. Après, c'est vrai que j'entends ce réflexe qui est de dire que c'est plutôt une démarche réservée à des nouvelles ZAC. C'est vrai que c'est plus difficile quand même de faire un éco-quartier sur un quartier existant. Mais je crois que justement, c'est ce travail qu'on essaie de faire en couture, en travaillant avec des expertises communes, en travaillant sur des indicateurs, en enrichissant la démarche quartier résilient par éco-quartier et éco-quartier par quartier résilient, qu'on montrera que ces quartiers-là aussi, ces quartiers populaires, ils peuvent eux aussi faire montre effectivement, d'exemplarité sur les enjeux climatiques, environnementaux. Mais c'est pas si facile que ça, quoi. Ça se travaille. Oui. Il faut aussi travailler à l'adhésion des habitants. Comme vous le disiez, ce sont les habitants qui subissent beaucoup. Donc,
alors justement, comment on les associe, ces habitants? Parce que le maître mot aujourd'hui, c'est la concertation. Enfin, on sait qu'il y a plein de programmes, notamment privés, qui sortent sans que voilà, il y ait beaucoup de consultations en amont, beaucoup de pédagogie. Est-ce que c'est la même chose pour un éco-quartier ou finalement, cet éco-quartier, il a quand même bonne presse? Comment ça se passe concrètement avec les habitants?
Il a bonne presse, mais pour les habitants, tant que c'est pas devant chez eux, c'est super. Mais dès que ça touche devant chez eux, c'est plus compliqué. Donc il faut.
Et puis les nuisances, hein, le tram, alors, on sait ce que c'est. En plus, ça dure quelques années de travaux.
Donc on travaille aussi sur comment on vit la transformation du quartier. Et puis sensibiliser les gens aux concertations. Nous, c'est plus de 700 participants à des rendez-vous. Et c'est comment on arrive à avoir des nouvelles personnes. Donc, on travaille sur la concertation avec des balades sandwich,
oui,
par exemple. Balades sandwich.
Ah, c'est quoi?
C'est-à-dire, le midi, vous venez, vous faites la balade du quartier et en fait, en même temps, vous apportez ce que vous aimeriez, ce qu'il faudrait changer. Et c'est sur le temps du midi, ça permet aux gens qui travaillent de participer et d'avoir une autre vision en fait, parce qu'on se rend compte que quand on fait des concertations classiques dans des salles, ça n'intéresse pas les habitants, c'est pas ça qu'ils veulent. On fait des balades poussettes pour les mamans ou pour les nourrices qui se promènent et du coup voir comment.
Donc finalement, pour capter un maximum de gens dans leurs activités,
il faut s'adapter et concerter sur les lieux même. Et c'est la meilleure façon, en tout cas c'est comme ça qu'on a réussi à ne pas avoir toujours le même groupe d'habitants qui participent et avoir des gens de tous les horizons à des périodes différentes pour pouvoir concerter et avancer sur ce projet de rénovation urbaine.
Monsieur le maire, sur cet aspect concertation.
C'est vrai que ce n'est pas la partie la plus facile puisque la rénovation urbaine c'est l'éloge du temps long. C'est sur le temps long qu'on va petit à petit transformer et
notamment
refaire
pour un
quartier.
Maire.
Qui est avant-gardiste, et notamment pour un maire. Donc effectivement, on essaye petit à petit, c'est d'abord des négociations avec l'ANRU, avec l'État, pour savoir quelles sont les grandes lignes pour obtenir des financements, et ensuite le déployer, et c'est pas toujours visible comme ça, d'un claquement de doigts. Nous aussi à Laval, on se confronte aux mêmes difficultés, on fait des balades urbaines, ce qu'on appelle des diagnostics en marchant, ou des concertations où on vient avec des plans, on passe beaucoup par les écoles. Avec les tempéries scolaires, on demande à nos animateurs de sensibiliser les enfants, par exemple, ou encore une maison des projets qu'on a ouvert à toutes et tous et sur lequel on peut venir prendre un café et échanger autour du projet. Mais on voit qu'on touche toujours les mêmes publics et c'est parfois difficile quand vous êtes déjà en difficulté économique ou mal logé, d'en plus d'accorder du temps à l'amélioration de la vie de la cité. Ça, c'est une vraie difficulté. On n'a pas encore totalement craqué le système.
C'est aussi pour les habitants un investissement dans leur temps, mais aussi une meilleure compréhension, appréhension de ce qui va se passer. Et même si c'est dans un temps long, qui ne profite d'ailleurs pas forcément au maire en place. Mais ça, c'est le jeu de la démocratie. On avait parlé de deux axes, les autres,
alors,
rapidement.
Juste sur la nature en ville, deux exemples que je n'ai pas terminés.
Oui.
Sur les écoles, la désimperméabilisation des cours d'école, où là, on fait participer les parents, les enfants, toute l'équipe pédagogique, que ce soit les animateurs sur les temps d'activité périscolaire ou sur les enseignants. Et franchement, ça, c'est des vraies réussites. Et puis, les troisièmes projets par rapport à la nature, c'est les quartiers fertiles dont vous parliez tout à l'heure, avec trois projets, nous, d'agriculture urbaine, notamment Penrose, un projet Penrose autour d'une ferme circulaire qui est économiquement viable. Donc, je pense que ça, c'est un projet qui restera. Et puis, d'autres projets un petit peu plus éphémères, comme les baies pailles cultivées sur la cultivées dans des pailles en proximité d'habitats sociaux. L'objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'on peut faire le développement de filières locales, de circuits courts, sans aller chercher ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très très important.
Les autres axes, notamment, il y a l'idée de construire plus sobrement, plus économiquement, avec le bas carbone.
Avec le bas carbone, tout à fait. Donc ça, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre les objectifs pour R25. La présence d'un réseau de chaleur qu'on a mis en place sur Belleveil, qui alimente en fait les équipements publics, mais également certaines nouvelles résidences de promoteurs et les bailleurs sociaux. Pour les gens, ça, c'est vraiment très très important. Les bailleurs sociaux ont un rôle essentiel dans cette rénovation urbaine parce qu'ils font des réhabilitations. Il n'y a pas que des démolitions, il y a aussi des réhabilitations. Pour un habitant, la réhabilitation, parce qu'en fait, ils vivent dans les logements les plus indécents avec des coûts de charges qui sont aussi chers que leur loyer. C'est-à-dire qu'ils ont les plus petits loyers, mais en fait, ils payent plus de charges. Voyez. Et là, avec les réhabilitations qui sont faites, en moyenne, les gens, ils gagnent 300 euros par mois. Donc, c'est sur des salaires petits.
Notamment sur les charges, bien sûr, d'énergie, hein, qui ont explosé depuis deux ans.
Ça, c'est très important parce qu'en fait, du coup, on apporte du confort thermique à l'habitant. On apporte de l'économie financière, c'est-à-dire ça coûte beaucoup moins cher, du pouvoir d'achat. Et puis, on leur apporte un cadre de vie qui est quand même bien supérieur à ce qu'on pourrait faire.
Oui. Nous, on a estimé que les programmes de renouvellement urbain, ils permettent une division par deux ou par quatre de la consommation énergétique en fonction qu'on est sur une réhabilitation ou sur un programme neuf, et une sortie de la précarité énergétique pour 80% des ménages.
On divise par deux ou par quatre les factures.
La consommation énergétique. Oui,
les factures. Et donc les factures de facto,
sauf
c'est vrai que ça baisse un petit peu. Sauf quand l'électricité est multipliée par deux ou par trois ou par plus dans certaines copropriétés.
Avec le réseau de chaleur, en fait, vous n'avez pas ce système-là. Ça a été un vrai gain, notamment, je vois, pour les lycées, pour les collèges. Enfin, voilà, c'est un vrai gain. Et puis, le dernier point qui est important, c'est habiter. C'est-à-dire qu'on a fait une charte avec les promoteurs et les bailleurs pour avoir au moins 25% de logements abordables, pour avoir refaire avec des matériaux biosourcés, vraiment réglementer cet aspect-là. Sur le bas carbone aussi, on travaille beaucoup avec le territoire intelligent. 33% de réduction de consommation d'eau pour les arrosages des parquets jardins, 66% rien qu'au niveau de l'agglomération, en changeant les LED, l'éclairage public, et avec une diminution en fonction de l'heure. Par exemple, de 17h, là cet hiver, de 17h à 20h, on va éclairer un petit peu moins. Et puis à partir de 20h à 22h, encore un peu moins. Et puis après, on laisse juste un petit filet.
Oui, c'est ça. Il y a un enjeu aussi de pas éteindre complètement.
Voilà. Il y a la sécurité. Ça, c'est important. Mais ça, c'est un
même chose à Laval, là, parce que l'éclairage a fait couler beaucoup d'encre.
On a signé ce qu'on appelle un prêt intracting. Je fais de la pub pour la Banque des Territoires. Donc, c'est un prêt vert. C'est à travers les économies d'énergie. C'est financé. Ça s'autofinance. On va passer en 100% LED tout l'éclairage, même si le gros de la facture pour une ville reste quand même le chauffage à 80%.
Oui.
L'éclairage public, c'est un gros à la marge, c'est les 20%, mais c'est important de le faire,
c'est
évidemment.
Il n'y a pas de petites économies en ce moment.
Oui, mais le gros, ça va être le décret tertiaire. C'est comment, petit à petit, on rénove tous les bâtiments publics et de les mettre aux normes environnementales. Sincèrement, avec les budgets d'investissement que les collectivités ont, ça ne marchera pas si on n'a pas de coup de pouce de l'État ou si on a une capacité à faire une dette verte. dans les collectivités, pour les collectivités locales.
C'est ce que vous appelez de vos voeux d'avoir.
C'est ce que j'appelle de mes voeux. Avec Eric Lombard, on est aligné. Le président de la Caisse des dépôts le dit, hein, il faut s'endetter pour assurer la transition. Moi, j'ai pas peur de le dire, il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette, un peu comme le cholestérol. Et donc, la bonne dette, c'est celle qui s'endette pour l'avenir, pour les générations à venir. Et la mauvaise dette, c'est quand on finance du fonctionnement par l'emprunt,
bien sûr.
Évidemment. Mais je crois que la dette ne doit pas être un sujet politique, mais plutôt un sujet, un moyen d'action. Et une collectivité qui sous-investit, une collectivité qui est mal gérée.
Oui, surtout que c'est de l'investissement pour faire des économies in fine. On ne sait pas où demain où sera le coût de l'énergie, et c'est vrai que c'est indispensable. Sur justement, ce passage à l'échelle, est-ce qu'on peut aller plus loin, Mélanie Lamant, est-ce qu'il y a d'autres, cette démarche éco-quartier, on voit qu'elle fonctionne hein, depuis 2009. Comment aller plus loin aujourd'hui? Comment voilà, passer encore plus à l'échelle pour tout l'ensemble de ces quartiers?
La démarche qu'on porte, quartier résilient, elle permet d'accompagner de façon renforcée 50 territoires.
Oui.
En même temps, il y a un accompagnement des 450 quartiers en rénovation, en renouvellement urbain qui est proposé par l'agence au travers d'un programme de formation, d'animation, de webconférences organisées avec des partenaires, avec des cartes blanches de l'ADEME, des agences de l'eau, pour accompagner l'ensemble des porteurs de projets qui n'ont pas forcément pu rentrer dans les 50 oui. quartiers fortement accompagnés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on a aussi demandé à tous les porteurs de projets d'organiser chaque année, il y a une revue de projets, des projets de rénovation urbaine qui est organisée, et d'avoir un angle, une lecture de la résilience des projets, appuyée par une grille d'analyse qui a été là aussi partagée avec le réseau des éco-quartiers, pour aider les porteurs de projets à identifier les vulnérabilités des quartiers, les marges d'amélioration et ce qui peut encore être changé dans un moment où les quartiers ne sont pas encore en pleine opérationnalité, où on peut encore changer un peu un cahier des charges pour massifier cette démarche-là, au moins sur les 450 quartiers d'intervention de l'ANRU.
J'ai une dernière question, c'est sur l'évaluation justement de ce qu'on a déjà fait. Est-ce qu'on mesure l'amélioration, que ce soit si un bonheur universel, en tout cas le bonheur des habitants, est-ce que, ou même sur ces politiques, on peut flécher, on peut arriver à voir avant, après l'amélioration?
C'est un des objectifs d'évaluer. Alors je voulais juste revenir moi pour comment faire. J'ai une proposition à soumettre au débat. Je suis là aussi pour...
On y va, allez.
Mais pour concilier économie et écologie quand même, et il faut changer le modèle économique. Et pour changer le modèle économique, ça passe pas. Si on pousse tous les curseurs sociaux, environnementaux, démocratiques, ça coûte plus cher et ça ne passe pas. Bon, une des propositions qui pourrait être faite, c'est du portage foncier. Je crois que ça y est, on commence à distinguer la propriété de l'usage du logement. Et je crois que les bailleurs sociaux sont prêts à agir là-dessus. Maintenant, il faut plus qu'accélérer, il faut démultiplier fortement les OFS. Et donc finalement, en sortant le prix du foncier, on retrouve 20% de capacité à investir pour la transition ou pour mettre du logement social. Ça, c'est quand même assez important dans les opérations immobilières.
Donc, multiplier les démarches BRS.
Tout à fait, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire avec une méthode à la française de coopérative, de portage foncier avec les collectivités, l'État et peut-être des foncières privées. Je pense qu'on peut y aller très
bien. Oui, le mot est passé en tout cas. Mmh. Très bien. Sophie.
Oui, c'est ce qui se passe sur Angers. On s'est regroupé avec un autre bailleur social. On a créé une société qui s'appelle Alti et dans laquelle on travaille en fait justement à mettre en place un OFS à l'échelle de l'agglomération. Et un autre point que je voulais quand même signaler qui est important, c'est pour les démolitions. On travaille énormément sur le recyclage des matières. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui n'était quand même pas fait il y a quelques années. Nous, je sais que sur le quartier de Belle-Baye, on travaille avec une start-up qui s'appelle Matière Grise et qui vise vraiment à recycler, à réutiliser les matériaux. Donc, ils font une première visite avant la démolition et ils regardent après comment ils arrivent à dispatcher et à réemployer en fait tous ces matériaux. Ça, c'est vraiment important parce que c'est vertueux.
Ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette démarche éco-quartier et puis le renouvellement urbain porté par l'ANRU. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés. Merci bien évidemment à nos invités du jour, Mélanie Lamant, directrice de la stratégie de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU, Florent Merco, maire de Laval, et Sophie Lebopin, adjointe au maire d'Angers, en charge des quartiers Belle-Baye et Lac de Maine. À très bientôt sur Radio Territoria.
Et vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.